tout de suite. Retrouvez le créneau série sur Radio Bartas. Vous écoutez le créneau série sur Radio Bartas avec le faux procès du loup. Tout de suite, Michel Vidal, ingénieur agronome, docteur en sciences de l'éducation, spécialiste des questions socialement vives, appelé à la barre.
Alors, là nous sommes un peu dans l'improvisation parce que vous êtes dans un statut juridique qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale, donc on ne sait pas trop s'il faut vous faire prêter serment ou non. Vous serez dispensé du serment, mais on va vous écouter attentivement, donc vous avez la parole.
D'accord. Alors, par rapport, donc, on a pu voir les différents témoignages de ce matin, et on a pu observer en particulier certaines controverses et certaines contradictions qui paraissent importantes de pointer. Et pour ma part, ce que je souhaiterais insister sur surtout la richesse de ces controverses et de les voir, alors sachant que personnellement je suis chercheur en sciences de l'éducation, de voir ces controverses comme une véritable source d'enrichissement, mais à voir comment on peut faire justement pour les rendre intéressantes sur le plan éducatif. Et donc ça va être le propos que je souhaiterais tenir. Alors on voit, et donc on a pu observer ce matin, qu'il y avait différents types de questions qui avaient été soulevées depuis la réparation du loup, différentes questions qui sont d'ordre d'une part scientifique, et en particulier, notamment certaines questions, on a pu avoir des réponses sur certaines de ces questions, notamment sur le plan écologique ou sur le plan biologique. Il reste d'autres questions actuellement extrêmement importantes sur lesquelles les scientifiques ne sont pas d'accord, sur lesquelles il y a des... Alors pas forcément des controverses vives par rapport à ça, mais en tout cas sur lesquelles on n'a pas d'informations suffisantes sur la manière dont le loup se comporte, notamment lorsque il attaque. Et en particulier, je citerai donc certains scientifiques qui disent « J'ai tout jeté à la poubelle de mes savoirs, parce que finalement je suis en train de me rendre compte, en redécouvrant le comportement du loup, qu'il y a tout à revoir, véritablement. » Donc là, il y a une véritable question sur laquelle donc, les scientifiques se penchent, sur certains comportements éthologiques, qui paraissent assez complexes et qui font que, par exemple, sur certaines zones sur lesquelles, une année, il y a de fortes attaques sur les brebis, l'année suivante, on n'aperçoit quasiment aucune attaque. Pourquoi ? Voilà, ça pose des questions. Est-ce que ça veut dire que le loup a changé de territoire ? Ou est-ce que c'est son comportement, parce que l'écosystème a évolué, qui ferait justement qu'il a décidé d'avoir un nouveau comportement ? Donc il y a ce type de questions actuellement qui animent des réflexions. Alors il y a eu d'autres controverses très fortes et qui actuellement, dont certaines sont réactivées, on voit à l'heure actuelle. Une des premières d'ailleurs, lorsque le loup est apparu, c'était de dire « Mais est-ce que c'est un loup finalement qui apparaît naturellement ou est-ce que c'est un loup qui a été introduit par l'homme, qui a été issu notamment de certains relâchés de zones d'élevage ?» Alors, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur le plan génétique, hein, pour savoir s'ils venaient d'Italie. Les résultats étaient assez probants dans un premier temps, en disant effectivement ils reviennent d'Italie. Et puis, on voit à l'heure actuelle, à nouveau, des contradictions sur le plan scientifique, sur cette question-là. Et bien sûr, c'est une controverse qui est importante, parce que ça soulève la question d'une responsabilité humaine, hein, à cette réapparition du loup. Ensuite, il y a d'autres controverses. Alors, notamment Farid Benamou, ce matin, parlait justement de la question de la biodiversité, hein, de la relation entre la biodiversité et la présence du loup. Alors, par exemple, certains résultats, et le Yellowstone, qui est plus avancé, en tout cas en termes de recherche sur le loup, annonçait « Ah, mais chez nous, la biodiversité augmente grâce au loup, grâce à la présence du loup. » Et OK, on est en Yellowstone, c'est un contexte particulier. Est-ce qu'on peut prétendre qu'on a le même phénomène sur tous les autres territoires ? Et là, véritablement, il y a des questions. Alors, il y a des questions par rapport à la biodiversité de différents ordres qui sont soulevées par la manière dont les bergers et les éleveurs vont gérer les territoires, hein, qui peuvent être très variables, comme le soulevait ce matin Farid Benamou. Mais aussi, effectivement, sur les variations de territoire qu'on peut avoir et sur ce qu'on met derrière ce terme de biodiversité, hein, qui a été... ce matin, on a vu qu'il a apparu à plusieurs reprises, ce mot-là, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est un mot qui est à la fois scientifique, mais c'est aussi un choix derrière. C'est un choix de société, hein, qui est défini, qui fait dire c'est cette biodiversité que l'on veut ou pas. Hein, donc là aussi, il ne faut pas prendre ces concepts comme étant purement scientifiques. D'autres controverses qui ont été sur la question aussi économique. Alors, non pas sur le fait qu'effectivement il y a un coût, c'est clair, et il y a un surcoût par rapport à la présence du loup et des dégâts qu'il fait, mais certains scientifiques commencent à avancer des réflexions qui amèneraient à dire que finalement la présence du loup peut aussi avoir un intérêt économique majeur, notamment par le développement de l'écotourisme qu'il pourrait supposer. S'agit-il encore de voir ce que ça peut donner à l'avenir, bien entendu. Et puis, une controverse aussi qui a été assez surprenante, enfin, en tout cas qu'elle arrive maintenant, qui est la question, et qui n'a pas été... On parle beaucoup de la relation entre les brebis et les loups, mais de la question de savoir si le loup serait capable d'attaquer l'homme. Et on a eu là, dernièrement des relevés de conclusions alors, de scientifiques sur cette question-là, qui sont particulièrement contradictoires. Certains prétendant que non, il est impensable que le loup puisse attaquer l'homme parce que l'homme est un bipède et que le loup, lui, ne peut pas... enfin, raisonne en tout cas sa proie s'il a quatre pattes. Hein. Et d'autres qui disent, attention, il y a un véritable danger pour l'homme parce que, justement, l'homme s'habitue... le loup s'habitue à la présence de l'homme, s'en rapproche, et à un moment donné, peut avoir des comportements agressifs. Donc il y a cette question-là qui est remise à l'honneur à l'heure actuelle, et sur laquelle donc on n'a pas, la science en tout cas ne peut pas apporter de réponse. Ensuite, il y a, et on l'a vu aussi ce matin, bien sûr, des controverses qui sont plutôt d'ordre éthique, et qui posent la question aussi de savoir est-ce qu'on parle du loup individu ou est-ce qu'on parle du loup espèce ? Voilà. Je pense que c'est important aussi de s'interroger sur cette question. Sur le plan, bien sûr, sur le plan de la législation, on a considéré que l'espèce loup était vulnérable, d'où la Convention de Berne, mais ce qui ne veut pas dire que l'individu, lui, est vulnérable. Ce qui a fait que, justement, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises ensuite, comme on l'a dit ce matin, qui ont conduit à dire si il faut maintenir l'espèce, le législateur avait aussi le souci d'essayer de protéger l'humain et contre des individus, à certains moments donnés, considérés comme déviants, hein, et ayant l'habitude justement d'attaquer des brebis, justement, et allant plus directement sur les brebis plutôt que des proies sauvages. Donc, il y a eu donc plusieurs mesures législatives qui ont été prises, on peut dire dans l'urgence, par rapport à une situation qui était aussi d'urgence, mais parce que sans doute que cette situation n'a pas été assez anticipée, alors qu'on savait depuis un certain temps que le loup était présent, mais que aucun acteur sur le territoire, à un certain moment, n'a voulu se saisir véritablement de cette question, parce que être témoin de la présence du loup risquait de dire « je deviens responsable du loup lui-même ». Et qui a fait qu'on a pris un certain nombre de mesures d'urgence sur le plan législatif pour pouvoir répondre à une situation qui devenait effectivement grave. Ce qui n'empêche que par rapport aux propositions qui sont faites par le législateur, d'une part, on se rend compte, et vous soulignez ce matin ce qui s'est passé encore dans le parc de la Vanoise, hein, qui souligne que ces propositions ne conviennent pas forcément, et on l'a vu pour plusieurs raisons. Alors il y avait la raison du fait qu'il est difficile effectivement de trouver parfois des loups pour faire des tirs de prélèvement, mais aussi parce qu'il y a un enjeu psychologique, comme monsieur l'a bien montré, un enjeu affectif qui est majeur. Et ce qui est important, c'est de voir que cet enjeu en termes affectifs me paraît important à pointer, mais je dirais des deux côtés des protagonistes, parce que je pourrais aussi souligner certains acteurs qui, je dirais, sont plutôt dans le souci de la protection du loup et qui sont particulièrement affectés par ce qui s'est pu se jouer sur certains tirs. Est-ce que on va mettre en balance, et comment on va mettre en balance des sentiments dans ces cas-là ? Et c'est une question qui est quand même assez peu aisée. Il faut, et dernier point, c'est aussi que derrière justement le fait que les mesures législatives sont aussi mal acceptées, c'est que derrière, et on le soulignait aussi ce matin, il y a des questions qui sont d'ordre de l'imaginaire, du symbole, hein, qui est assez fondamental à pointer. Pour ma part, j'observais très souvent que les tenants de la protection du loup portent le loup de manière comme un symbole héroïque, on va dire, d'une certaine façon, contrairement à des tenants des bergers ou des éleveurs qui le verront d'une autre façon beaucoup plus diabolique. Et il y a la question derrière, bien entendu, qui a été soulevée, la question domestication ou sauvage. Est-ce qu'on est dans un symbole de la domestication qu'on a mis en œuvre, qu'on porte comme une tradition, hein, ou est-ce que depuis 1850, et puis ça s'est amplifié en 1970, on a eu toute une demande sociale qui s'est progressivement développée autour du sauvage, hein. Alors bien sûr, on est dans les symboles, on est dans le fantasme. Toujours est-il qu'il y a aussi une demande sociale de ce type-là qu'il faut aussi reconnaître. Et donc on est dans ces jeux-là, entre ces traditions d'un souhait justement de conserver une certaine forme de pastoralisme, une certaine forme de domestication, une certaine forme de gestion d'un territoire, et puis l'apparition du loup finalement vient tout remettre en cause. Et est-ce que la question, est-ce qu'on reste dans la tradition ou est-ce que on souhaite aller vers une réflexion, alors j'allais dire dans l'innovation, mais laquelle dans ces cas-là, hein. On a vu que le législateur a fait aussi plusieurs propositions justement d'ordre technique pour pouvoir aider les éleveurs à répondre à cette cohabitation forcée ou pas entre le loup et les éleveurs. Et on voit qu'aucune, finalement, ne fait actuellement, n'est en mesure de pouvoir répondre à une véritable cohabitation possible. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres réflexions qui sont menées par les scientifiques sur d'autres types de réponses qui n'ont pas encore pu être démontrées. Hein, je citerai par exemple l'observation qui a été faite que, alors pour des raisons que personne ne peut dire, mais en tout cas que les fils tendus, vous savez, comme dans les fêtes foraines avec des petits drapeaux de couleur, effraient le loup lorsque notamment il y a du vent. Et que effectivement ça serait peut-être un autre moyen encore possible. Ou encore le fait de jouer avec, alors là c'est plutôt, on est dans un autre type de technologie, de travailler sur des lumières qui, de manière aléatoire, pourraient éclairer les zones de pâturage et qui, étant aléatoires, symboliseraient peut-être les yeux de l'homme pour le loup. En tout cas, qu'est-ce qu'il en pense, lui, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il effraie aussi, de la même façon. Voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres réflexions qui sont menées à l'heure actuelle par les scientifiques et qui font que la réponse qui a été de dire, bon, tir de défense jusqu'au tir de prélèvement était vraiment une réponse à une situation d'urgence, mais qu'il ne faut pas omettre le fait qu'il y a toute cette réflexion qui se fait dans un autre pas de temps, c'est clair, hein, mais qui doit être prise en compte. Voilà. Alors, en fonction de toutes ces problématiques, je dirais en termes, on voit toutes ces controverses qui sont de plein d'ordre, scientifiques et éthiques, dans le domaine des symboles, des choix de société qu'on peut faire. Alors, la question qu'on peut poser, c'est, quel que soit le choix de société qu'on va prendre, c'est comment le prendre. Et ce comment le prendre me paraît vraiment assez fondamental. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui a été omis dans les mesures législatives, c'est la question de la responsabilisation des acteurs dans la décision sur une mesure à prendre, quelle qu'elle soit. Et qui fait qu'effectivement, il est plus aisé dans ces cas-là pour les acteurs locaux de dire « ça ne marche pas, Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer ? Il me semble important, en tout cas, de voir, je pense qu'il y a un mot qui est apparu ce matin à plusieurs reprises, qui est la notion de contexte. Et que les contextes peuvent être très différents d'un endroit à l'autre, hein, c'est d'un pays à l'autre, mais aussi d'un territoire à l'autre. Et il est important de pouvoir réfléchir à la question de la cohabitation homme-loup en contexte. Sinon, on va aboutir à des mesures qui vont être des mesures de type recette, mais qui finalement ne vont satisfaire personne, sauf sur les territoires où effectivement ça peut marcher, mais c'est tout. Donc ce qui serait plutôt envisageable, c'est de réfléchir justement à cette possibilité dans des contextes de territoires, je dirais homogènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire homogène, hein, des territoires où le pastoralisme est d'un même type. Parce qu'on peut comparer ce qui se passe en Roumanie, en Italie, en Espagne, mais le pastoralisme n'est pas forcément le même. C'est intéressant d'aller voir ailleurs, forcément. Mais c'est aussi important de dire, mais dans ce contexte, est-ce que c'est possible ou pas ? Donc là, je pense qu'il y a une question pour moi fondamentale à poser, c'est de renouveler ce qu'on appelle donc un dialogue territorial entre différents acteurs donc, qui sont mobilisés dans la problématique, et peut-être pas que les bergers et les associations de protection de la nature ou le ministère de l'Environnement, mais aussi, à certains moments, ont été engagés aussi des chasseurs dans cette problématique. Lorsqu'il a été question des tirs de prélèvement, il y a eu aussi des accusations comme quoi ils étaient incompétents parce qu'ils ne pouvaient pas trouver les loups pour pouvoir les tirer. À un moment donné, donc, il faut pouvoir mettre autour d'une table l'ensemble de ces acteurs et pouvoir essayer d'élaborer. Alors, une réponse co-construite, en tout cas, c'est ça qui, pour moi, est important, hein, dans un processus où il y a un véritable respect de la vision de chacun. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, c'est bien moins facile à faire, mais j'observe, en tout cas, sur le territoire français, le développement de toute une des médiateurs environnementaux, hein, qui travaillent de plus en plus donc, sur différents territoires, sur des problématiques de cet ordre-là, sachant que la problématique du prédateur est clairement l'une des problématiques les plus difficiles à mettre en œuvre, hein, sur le terrain, mais je pense qu'il ne faut pas pour autant l'exclure. Il me semble fondamental, en tout cas, de permettre aux acteurs une véritable responsabilisation, de pouvoir reprendre en main ce qu'ils pourraient définir ensemble. Alors, ça suppose, ça, véritablement, et je pense que ce procès en est un excellent exemple, ça suppose véritablement qu'il y ait, d'une part, alors, ce matin, il est question de... Il faut que nous connaître, nous, par exemple, bergers, cette question de la reconnaissance et donc de la connaissance de chacun dans ce qu'il vit paraît déjà un élément fondamental, et ça suppose une véritable écoute de la part de chacun, ce qui suppose des cadres très très formels, hein, comme ce procès le suggère, par exemple. De la même façon, les questions qui vont se poser ensuite, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un processus qui est très long, hein, il ne faut pas non plus se le cacher, ces processus de dialogue territoriaux sont longs, sont coûteux aussi, mais on sait aussi à quel point, par ce biais-là, on peut arriver à faire de toutes ces controverses que l'on a à l'heure actuelle, véritablement, on peut les transmuter en une véritable opportunité pour créer du savoir, et un savoir véritablement co-construit entre les acteurs. Ce qui ne se joue pas fondamentalement actuellement, en tout cas, pas si la science reste aussi éloignée de ce qui se joue avec les acteurs et de pouvoir travailler avec les acteurs. Ce qui suppose aussi d'intégrer dans ces dialogues territoriaux les scientifiques, hein, au même titre que les autres acteurs, pour travailler de concert. Voilà, c'est ce qui me semble, enfin, fondamentale à l'heure actuelle. Et je pense que, alors sachant que je vous disais que je suis chercheur en sciences de l'éducation, donc je pense que c'est aussi une approche que je prône, que c'est une approche qui véritablement est éducative pour la société.
Voilà. Merci. Je voudrais revenir sur la question que j'avais lancée ce matin et à laquelle je n'ai pas entendu de réponse. Je ne sais pas si vous avez des éléments à nous apporter là-dessus. Sur les statistiques, est-ce qu'on a des connaissances précises sur les chiffres en matière d'attaques, de nombre de loups, est-ce que c'est controversé ou est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant clair pour tout le monde ?
Alors, il existe il a été défini par le gouvernement un plan loup qui permet justement à la fois, enfin, de réfléchir à cette cohabitation entre l'homme et le loup. Et donc, ce plan loup permet d'avoir des chiffres effectivement précis hein, par rapport à ça. Alors, précis, autant que c'est des statistiques peuvent le dire, hein, c'est clair. Oui, donc, on a effectivement des données. Alors, je vais en donner celles qui me paraissent en tout cas importantes. C'est bon, d'une part sur le développement de la population de loups. Elle s'accroît de 20% par an, en tout cas c'est ce qu'on observe depuis 2007, hein, qui est un accroissement de ce type-là. Ce qui amène, on annonçait le chiffre de 300 loups à peu près sur la France. Alors je découvrais avec Farid Benamou que peut-être que ce chiffre est en baisse. Il est clair qu'avec la manière dont on travaille sur le plan statistique, ce n'est pas évident d'avoir un chiffre exact, bien entendu, sur ce type de questions. Ensuite, sur les nombres d'attaques, ça, bien sûr, on peut aussi les quantifier. Alors, ensuite, la question, c'est de savoir ce qu'on fait de ces chiffres-là. Par exemple, en nombre d'animaux victimes, on est passé en 5 ans à peu près, on est passé de 2600 animaux tués à 6000. Voilà, environ. Mais si on regarde, par exemple, les indemnisations, les montants des indemnisations, on est passé, par exemple, dans les mêmes années de 700 000 à 2 millions d'euros, on pourrait dire bon, il y a un fort accroissement. Hein. Il faut voir aussi ce qui se joue par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a eu aussi un changement de comportement de la part des personnes aussi qui donnent les compensations. Et on observe maintenant ce qu'on... Enfin, avant, il y avait des... Dans le doute, on était plutôt enclin à ne pas donner l'indemnisation, c'est-à-dire c'est parfois difficile de savoir si c'est du loup ou du chien errant. Certains étaient plutôt enclins à ne pas donner d'indemnisation parce qu'on était dans le doute. Et là, il y a un revirement par rapport à ça, c'est-à-dire que s'il y a présomption que c'est bien une attaque du loup, on va plutôt, au contraire, avoir tendance à proposer l'indemnisation. Donc, il y a une augmentation, mais il faut voir aussi ce qui se joue sur la manière dont on raisonne, la manière de gérer cette indemnisation. Et voilà, il y a quand même une augmentation très claire depuis... Alors là, je vous donne des chiffres, là, c'est de 2008 à 2013, hein, en particulier.
Une petite seconde, monsieur l'avocat général, est-ce qu'il y a des questions de la part des juges ?
Et dans vos statistiques, est-ce que vous avez le nombre de loups qui ont été tués ?
Alors, qui ont été tués légitimement, en tout cas qui ont
oui,
été tués...
Oui, 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 légitimement, oui, je suis juste.
Là j'ai exactement, donc, légalement, pardon. Oui, parce que, donc, il y a eu des effets de braconnage, hein. Et à un certain moment, ils ont été révélés, ces effets-là. Donc, il y a eu des tensions assez fortes qui sont jouées autour de ça. Mais sinon, en termes de chiffres, je n'ai pas les... J'ai les mêmes que ce...
C'est-à-dire, rappelez-nous, 24.
Alors, cette année, sont autorisés au tir un maximum de 36 loups. L'année précédente, c'était 24.
Voilà. Et sur le nombre de... Sur le nombre d'animaux effectivement tués,
j'avais 19.
Donc il y en a eu d'autres qui ont été effectivement tués pendant l'été, mais je ne les ai pas quantifiés, donc mon chiffre est sous-estimé. 51, c'était le nombre d'arrêtés qui ont été pris par les préfets. Ce n'est pas le nombre de loups qui ont été effectivement tués. Hein.
Bien. Pas d'autres questions du tribunal ? Donc, monsieur l'avocat général.
J'ai quelques chiffres, là, monsieur le président, que je peux laisser au tribunal, et qui disent qu'au 31 décembre 2014, effectivement, Alors, il y a plusieurs colonnes, nombre de constats indemnisés, nombre de victimes constatées, et enfin, nombre de victimes indemnisées. Alors, constatées 9189, indemnisées 8560, ce qui représente un montant total d'indemnisation de 2 617 632,59 €. Ce sont des chiffres qui viennent de la direction de l'agriculture et de Rhône-Alpes. C'est écrit trop petit pour mes yeux. Voilà.
Oui, à quelques euros près, j'ai les mêmes.
Vous avez les mêmes. Et puis, alors, j'avais encore d'autres chiffres. Alors, c'est oui, le nombre de victimes constatées au 31 août 2015. 4726, au 31 août 2014, 5539, donc il y a une petite baisse de...
Victime, ça veut dire animaux tués.
Victime constatée.
Oui, mais ça veut dire tué.
Oui. Ça ne compte pas, évidemment, les brebis qui ont disparu.
Ou qui ont été blessées.
Ça ne concerne que les brebis... dont les cadavres ont été retrouvés et dont on peut dire que le loup les a mangés.
Et ça exclut celles qui ont été blessées seulement.
Ah oui, bien sûr. Oui. Celles qui sont toujours vivantes et qui ensuite iront à l'écarissage peut-être, ne sont pas comptées. Et puis, alors en 2013, c'était 3734.
Donc c'est un peu moins que les chiffres que vous nous donniez. Vous disiez 6000.
Oui.
Ben, c'est 5539. Oui. Au 31 août 2014. Ça ferait 471 de moins que 6000. Par rapport à 5539, vous pourrez avec moi que c'est secondaire.
D'accord.
Voilà. D'accord. Bon, mais enfin, j'ai un tas de chiffres que je peux laisser sur la table du tribunal.
Voilà, on va prendre note de ces statistiques. Et à part ça, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Non, je n'ai pas de questions. C'était parfaitement clair, lumineux. Je remercie beaucoup, monsieur.
Bien. Est-ce que la partie civile a des questions ? Pas de questions non plus. La défense ? Pas de questions. Bon, ben nous vous remercions, monsieur. Vous pouvez reprendre votre place.
La semaine prochaine, vous pourrez entendre la première plaidoirie du faux procès du loup avec l'avocat de la partie civile, Régine Barthélémy. À la semaine prochaine !